La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, vous nagez dans un océan de perplexité.
Et en Belgique, le résultat des opérations lancées par la police provoque non seulement la déception, mais aussi la confusion. La déception tout d'abord, puisque le principal recherché, le fameux Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe, est toujours en fuite. Traqué par la police belge et française, il ne fait pas partie des 16 personnes arrêtées ce week-end qui seraient liées aux attentats de Paris. Il ne figure pas non plus parmi les 5 individus interpellés hier à Bruxelles et à Liège. Déception également parce que sur ces 16 personnes arrêtées, 15 ont été relâchées. Et s'agissant des 5 personnes interpellées hier, 2 ont été relâchées, les 3 autres faisant toujours l'objet de vérifications supplémentaires. Ce qui signifie in fine que l'enquête n'a tout de même guère progressé. D'autant que selon le journal britannique The Guardian, aucune arme ni aucun explosif n'ont été jusqu'alors trouvés pendant les perquisitions menées à Bruxelles et à Charleroi. Et puis la confusion également, car le niveau d'alerte maximum a finalement été maintenu jusqu'à lundi prochain. En revanche, les écoles et le métro rouvriront dès demain matin. Alors que les écoles restent fermées aujourd'hui, on peut le comprendre, écrit l'éditorialiste du Soir de Bruxelles. Le niveau d'alerte maximum impose en effet qu'elles fassent l'objet d'une protection importante. Mais si le niveau d'alerte 4 nécessitait jusqu'à présent que les écoles gardent leurs portes closes, pourquoi les autoriser à les rouvrir demain dès lors qu'aucun événement positif n'est intervenu? Et puis il y a une autre incohérence, poursuit le journal. Certes, la menace terroriste est ciblée sur Bruxelles, mais puisque le niveau d'alerte a été fixé à 3 et non pas à 4 dans le reste du pays, cela met à la limite les provinces dans un certain état de fragilité. Pourquoi en effet les terroristes n'iraient-ils pas frapper là où les mesures sont plus lâches? Bref, la complexité de la situation, son caractère inédit et la menace extrême dans laquelle le pays est plongé peuvent expliquer la difficulté de définir des mesures cohérentes, concède l'éditorialiste, mais la manière dont tout cela a été présenté et expliqué n'est certainement pas de nature à rassurer la population, dit-il, ou dit autrement, si le travail des forces de l'ordre apparaît considérable au vu du dispositif déployé, il reste encore ce matin plus de questions que de réponses, mais il faut évidemment espérer qu'au cours des prochains jours, l'enquête progressera, ce qui permettra à la Belgique de sortir de ce qui ressemble quand même à un petit cauchemar.
En revanche, si la presse belge, Thomas, se dit perplexe sur les avancées de l'enquête, elle se montre de plus en plus véhémente contre la presse française et plus précisément parisienne, qui depuis quelques jours se déchaîne contre la Belgique.
Oui, à lire les différents reportages et éditoriaux, la Belgique serait devenue ni plus ni moins que le berceau du terrorisme européen, une sorte de Belgiquistan. Le journal Le Monde en particulier fige la Belgique dans un portrait au vitriol. On y lit par exemple que la sympathique Belgique est devenue une plaque tournante du djihadisme, que le pays doit se ressaisir et comme pour mieux enfoncer ses voisins insouciants. L'auteur rappelle également qu'il aura fallu qu'il connaisse la terrible affaire Dutroux dans les années 90 pour qu'il réforme enfin sa police et sa justice. D'où cet édito à lire dans la Libre Belgique. Nous n'avons évidemment pas attendu qu'une partie de la rédaction du Monde débarque à Bruxelles pour dénoncer les failles des services belges dans la lutte contre le terrorisme ou le laxisme coupable dont avait fait preuve l'ancien bourgmestre de Molenbeek. On ne peut non plus nier que les attentats de Paris aient été décidés en Syrie, organisés en Belgique et perpétrés en France, mais l'information a ses droits. Oui, il y avait des Belges parmi les terroristes, mais il y avait aussi des ressortissants français vivant en Belgique. Et s'il est exact que plusieurs auteurs d'attentats sont passés par chez nous, d'autres n'ont jamais quitté l'Hexagone, sauf pour aller se former en Syrie. Quant à Dutroux, que vient-il faire là-dedans, interroge l'éditorialiste, avant d'ajouter, faut-il que l'on reparle de l'affaire Dutroux? Décidément, la condescendance française n'a pas de limite. L'Hexagone semble oublier un peu vite que ce sont les renseignements des services belges et marocains, en l'occurrence, qui ont permis de localiser la planque d'Abaou à Saint-Denis. Et d'ailleurs, comment est-il parvenu à quitter la Syrie pour revenir à Paris? Celui-là, il y a une explication. La France s'oppose toujours fermement à toute idée de PNR européen, le fichier de données des voyageurs aériens. Or, avec de telles réticences, la traque aux terroristes n'est pas gagnée. Et l'éditorialiste encore de préciser, reconnaissons-le, cet exercice, c'est pas moi, c'est lui, a quelque chose d'un peu minable. On en est bien conscient, il y a eu des failles partout et il est un peu vain de vouloir sans cesse rejeter la responsabilité des attentats de Paris sur d'autres pays amis. Ce petit jeu est d'ailleurs bien ce que cherche Daesh, divisé et en accablant les Belges de tous les maux. Certains commentateurs sont tombés dans le piège tendu. Alors on le répète, il n'est pas question ici de gommer certaines responsabilités et réalités belges, les lourdeurs institutionnelles qui peuvent parfois gêner des enquêtes, mais les critiques seraient plus faciles à accepter si elles venaient d'un État infaillible. Un État qui serait un modèle du vivre ensemble et de l'intégration. Or, si c'était le cas, le FN, parti raciste, xénophobe et anti-européen, ne serait pas le premier parti de France, mais sans doute les responsables du FN ont-ils là encore été formés en Belgique.
Merci Thomas Cluzel. Une revue de presse internationale à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.